Bonjour à tous, j'ai salué la plupart d'entre vous, mais quelques-uns, je n'ai pas pu les saluer. Très heureux de voir la salle bien garnie d'assistants ce matin, d'entendre ces beaux cantiques, partager le repas du Seigneur avec vous. J'ai vu Viviane ce matin, ça, on s'est rappelé qu'on se connaît depuis plusieurs dizaines d'années. Je pense que ni elle ni moi ne veut nous révéler exactement le nombre d'années. Ça fait plus de 40 ans en tout cas que nous connaissons cette église de Perpignan et nous sommes heureux de voir l'œuvre de Dieu qui se fait ici, parmi vous, en vous, et passer ce week-end avec vous. La série qui a été proposée par le pasteur, c'est sur la dépression. Est-ce que vous êtes déprimé? Si vous l'êtes, peut-être vous n'allez pas vouloir l'avouer. Parce qu'il faudrait que dans la vie chrétienne, tout aille toujours bien. Hein? Jamais de problème. Jésus est vainqueur à la victoire. Et pourtant, on vit dans un corps humain, on vit avec des sentiments, des émotions, on vit parfois des situations de difficulté, de frustration, de tristesse, de surmenage, une pluie d'épreuves. Ce matin, c'est la tristesse et les larmes. Vraiment, en voyant les titres de ces quatre conférences, je me suis dit, il n'y a vraiment pas de quoi s'encourager. Et terminer avec la tristesse et les larmes, dimanche matin, imaginez-vous. Pourtant, on peut les connaître, ces périodes de tristesse et de larmes, de frustration. Quelquefois, ça dégénère en amertume, alors ça devient un péché. Mais être dans la tristesse et les larmes n'est pas forcément un péché. Parfois, c'est plutôt grave de ne pas pouvoir pleurer. Il y a des gens qui disent « Je n'arrive plus à pleurer, j'ai perdu mes larmes. » C'est dommage. Dans le temps, on disait aux garçons « Un homme, ça ne pleure pas. C'est les femmes qui pleurent. » Et du coup, on devient dur. Mais c'est bien pour un homme aussi de pleurer quelquefois. Un homme a aussi un cœur. On n'est pas des machines, messieurs. Nous avons des âmes sensibles. Et Dieu ne donne pas la dureté du cœur. La tristesse et les larmes dans la vie de Jérémie, le prophète Jérémie, nous allons un peu passer en revue sa vie et voir les situations, les raisons pour lesquelles il pleurait. Mais avant de faire cela, j'aimerais vous lire quelques versets en Lamentations chapitre 3. Pour y dire que Jérémie était tellement triste et a versé tellement de larmes, il a écrit un magnifique poème qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie, qui vient tout de suite après le livre qu'il a écrit sur sa vie et son ministère. C'est le seul à avoir écrit tout un autre livre pour se lamenter. Ceux qui étudient la littérature sémitique, disent que Jérémie était un poète de très grand talent. Les Lamentations de Jérémie sur le plan littéraire est un chef-d'œuvre. Jérémie était tellement fort en littérature, un si grand poète, qu'il a fait 4 chapitres de 22 versets chacun, 1er, 2e, 4e et 5e. Et dans l'hébreu, chaque verset commence avec la lettre de l'alphabet suivant. Genre A, B, C, D, E, comme ça. Chapitre 1, 2, 3 et 4. Chapitre 3 a 66 versets, 22 jeux de 3. Les 3 premiers versets commencent avec A, les 3 versets suivants avec B, C, etc. C'est quand même, il faut pouvoir le faire. Un poème comme cela, un chef-d'œuvre littéraire, mais c'est une vraie lamentation. Et nous entrons un peu dans son esprit, dans sa pensée, dans son cœur, en lisant le début du 3e chapitre, où il dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » Il parle de Dieu. « Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. » Il fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Nous, du haut de notre grande stature chrétienne, on dirait, voyons Jérémie, c'est pas des paroles qu'il faut dire, on ne parle pas à Dieu comme ça. Hé, un peu de courage là, ça va, ta vie ne va pas si mal que ça, t'es pas triste à ce point, voyons, qu'est-ce que c'est que ce langage? Allons. C'est pourtant un homme inspiré de l'Esprit, et l'Esprit a inspiré Jérémie pour écrire ses paroles. Parce que ses paroles représente ce qu'un enfant de Dieu peut ressentir quand il est frustré, quand il est attristé, quand il est abattu et quand il a l'impression que c'est Dieu qui l'a rendu ainsi. Il faut dire que dans le cas de Jérémie, Dieu lui a donné une mission particulièrement douloureuse. Et toute sa vie a été une suite de douleurs. Cet homme a versé des larmes comme peu d'hommes en ont versé. Et dans sa manière poétique de s'exprimer, il disait « Ma tête est remplie de larmes, des torrents jaillissent de ma tête, nuit et jour, des larmes coulent à torrents pour mon peuple. » La tristesse et des larmes, si quelqu'un peut nous en parler, c'est bien le prophète Jérémie. Regardez encore Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20, où il donne libre cours à son chagrin. Lui, comme Job, est arrivé à ce moment le plus bas qu'on puisse tomber, le moment où l'on va même maudire le jour de sa naissance. Je pense qu'il n'y a peut-être personne ici qui est arrivé à maudire le jour de sa naissance. Mais Job l'a fait au sein de son épreuve et Jérémie l'a fait. À partir du verset 14, Jérémie chapitre 20, où il dit « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. » Que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? C'est terrible. Il maudit même l'homme qui est allé dire à son père que sa mère venait d'accoucher d'un garçon. Il faut quand même être vraiment très très bas pour pouvoir en arriver là. La tristesse et les larmes. Alors la tristesse, on commence déjà au premier chapitre, dans les quelques premiers versets, en lisant, on se dit, oulala, ça n'a pas l'air de bien se passer. Dès les premiers versets du livre de Jérémie, le ton est donné. Jérémie d'abord, verset 1, c'est un sacrificateur. Un homme donc dévoué au culte de l'Éternel. Et verset 4, La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » On dit, mais non, mais ça commence bien. Avant sa naissance, Dieu dit, je vais faire de toi un prophète pour les nations. Ah, c'est bien. On continue, alors on est tout encouragé. Et on voit Jérémie qui répond, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Bon, il est modeste, il est jeune, c'est normal. Sans doute Dieu va faire preuve de compréhension. Nous continuons, et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Verset 10, « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. » Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Deux tiers de son travail sera de la destruction. Un seul tiers sera la construction. Ça a l'air plutôt négatif, vous ne trouvez pas? Et ensuite, verset 16, où Dieu dit, « Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Hérin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. » Pour essayer de comprendre ça, imaginez que Dieu vous dit ce matin, vous allez à Place du Castillet, tous les jours, pendant 8 heures, vous allez prêcher contre les gens de Perpignan, vous allez prêcher contre leurs péchés, vous allez prendre le journal tous les jours, et vous allez le compulser pour voir tout ce qui ne va pas, et vous allez dénoncer les habitants de Perpignan devant eux. Ils vont faire des manifestations contre vous, ils vont faire venir les CRS contre vous, ils vont faire venir la police municipale, ils vont faire venir tous ces gens-là, vous allez être traînés au tribunal, on va vous accuser, et vous allez tenir ferme, et vous n'allez pas vous laisser vous démonter, et vous n'allez pas trembler, et ça va continuer pendant 30 ans. Là, vous serez un peu découragé aussi. Pour ne pas dire totalement, totalement effrayé. Mais je ne pourrais pas faire ça. C'est là ce que Dieu demande à Jérémie. Mais pas sur un peuple, sur une ville, sur les voisins, sur tout le pays. Y compris les rois, les prophètes, les sacrificateurs. Toute la nomenclature du pays va y passer. Il va passer sa vie à dénoncer leurs péchés. Alors, Jérémie n'était pas quelqu'un de dur. Il était quelqu'un plutôt de très timide et de tendre. Il était quelqu'un d'émotif. Il y a les gens qui disent, oh, ça ne me gêne pas, moi, de dénoncer les gens. Moi, j'aime ça, me battre. J'aime bien me disputer. Il y a des gens comme ça, hein, qui cherchent la bagarre. Ce n'était pas le cas de Jérémie. Le fait de dénoncer comme ça, d'être en but aux afflictions, lui faisait peur. Et Dieu dit, attention, tu ne trembles pas. Hein, ne tremble pas. Et à l'intérieur, ça c'était comme ça. On voit déjà la souffrance. On comprend pourquoi cet homme ultra sensible, devant une tâche si difficile, devant une opposition si puissante, ait passé beaucoup de temps à verser des larmes. Le cœur brisé de chagrin. La Bible dit, Jésus, Dieu lui a dit, hein, tes auditeurs ne voudront pas entendre ton message. Non seulement ils seront rebelles, mais ils seront menaçants. Dieu lui fait une promesse. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te tueront pas. Je te délivrerai. Donc, je te préserverai, mais tu dois dire ce que je te dis de dire chaque fois que je te donne un message. Il faut que tu ailles en public et que tu leur proclames. Il faut que tu leur dises, ainsi parle l'Éternel. Et ce sera toujours un message de jugement. Il a eu quelques moments où il a pu donner quelques messages de réconfort, mais ils sont très rares par rapport à ceux du jugement qu'il devait annoncer. Alors, quelle est la source de sa souffrance? Nous le voyons en Jérémie chapitre 15. La source de sa souffrance, verset 10, où Jérémie dit, « Malheur à moi, ma mère !» C'est comme s'il parlait à sa maman. Hein? « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et l'airain? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Quel était son problème à Jérémie? Il dit, ben moi d'abord, je ne suis d'ennemi de personne, je ne crée aucun problème à titre personnel, je ne prête pas d'argent, donc... Les gens qui m'empruntent, il n'y a personne qui m'emprunte de l'argent, donc personne n'a. Vous savez, parfois les gens vous empruntent, et après quand il faut le rendre, et puis ils ne veulent pas vous le rendre, ça crée des problèmes. Ou bien vous empruntez, et vous avez des difficultés pour le rendre, ça crée des problèmes. Il dit, moi je ne prête pas, je n'emprunte pas, normalement je ne devrais pas avoir de problème. Et tout le monde a un problème avec moi. Et pourquoi? À cause de son message. Quel est ce message? Versets 13 et 14, Jérémie est obligé de dire au peuple, à cause de vos péchés, Dieu a décidé de vous envoyer en captivité à Babylone. Son message sera, le roi de Babylone va venir ici, il va détruire la ville de Jérusalem, il va vous massacrer, et quelques-uns, il va vous amener en captivité, et vous allez rester à Babylone pendant 70 ans. Et c'est l'Éternel qui impose ce jugement, et c'est moi qui suis chargé de vous le dire. Alors, où est la source de sa souffrance? Premièrement, Jérémie ne veut pas donner ce message parce qu'il aime tendrement son peuple. C'est comme si, excusez-moi, mais c'est assez récent dans l'histoire, mais si comme l'un de vous, nous aimons la France, nous aimons les Français, nous aimons les valeurs de la République, imaginez que l'un de nous ait été chargé de dire à tous les Français, les Allemands vont arriver et nous prendre en captivité, et c'est Dieu qui va le faire, et on doit partir, et parce que Dieu nous punit. Même si c'est la vérité, c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas dire. Et c'est quelque chose que les gens ne voudraient pas entendre. Vous avez un messager qui prêche un message qu'il n'aime pas prêcher à des auditeurs qui ne veulent pas l'entendre. Tout le monde souffre, évidemment. Il a un amour pour son peuple. Il est obligé de dénoncer la rébellion de son peuple contre Dieu. Il est obligé d'appeler son peuple à la repentance, sachant que le peuple ne se repentira pas. Là aussi, c'est pénible de dire à un peuple, repentez-vous, mais revenez à l'Éternel, mais laissez tomber votre idolâtrie. Mais si vous arrêtez d'être idolâtre, l'Éternel vous pardonnera, Nebuchadnezzar ne viendra pas, vous ne partirez pas en captivité, Dieu vous sauvera. Et d'entendre le peuple dire, laisse-nous tranquille, on adore les idoles qu'on veut adorer, c'est pas toi qui vas nous faire changer d'avis. Et de toute façon, pourquoi tu nous menaces avec Nebuchadnezzar? Mais t'es pour lui ou t'es pour nous? Jérémie, mais moi je suis pour vous, mais pas pour votre péché. Et c'est Dieu qui me dit de vous dire que les Babyloniens vont venir. Mais alors, tu hurles pour eux. Tu l'aimes, lui, le Babylonien, tu ne nous aimes pas. Mais non, mais moi, je vous aime. On ne vous dirait pas, puisque tu dis que, voilà, tu es un traître. Il se fait traiter de traître, alors que c'est lui qui aime son peuple plus que les gens à qui il parle. Et il ne peut pas taire son message parce que Dieu derrière l'oblige à le dire. Obligé d'annoncer le jugement. La douleur d'être traité comme un traître. En Jérémie, chapitre 21, vous avez un passage particulièrement poignant. Les 7 premiers versets du chapitre 21, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel lorsque le roi Sédécias lui envoya Pashur, fils de Malkija, et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, pour lui dire, alors ça c'est des faux prophètes, hein? Pashur et ce Sophonie, c'est des faux prophètes. Alors ils disent à Jérémie, consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ses miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. Hein, peut-être que le Seigneur va quand même intervenir pour que Nebuchadnezzar ne nous vainque pas. Hein, consulte Dieu pour voir s'ils peuvent peut-être arranger quelque chose. Vous imaginez que Jérémie serait ravi de leur dire, ce serait bien, oui, l'Éternel va nous épargner. Il serait ravi de le dire. Verset 3, Jérémie leur répondit, vous direz à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée, il ne les épargnera pas, il n'aura point de pitié, point de compassion. Oh. Je crois qu'il pouvait dire, j'aurais préféré que vous ne veniez pas me consulter. Parce que je n'ai vraiment pas envie de vous donner ce message. Mais je n'ai pas le choix. C'est l'Éternel qui va vous frapper à cause de vos péchés. Donc, il va vous envoyer la peste et toutes sortes de malheurs. Et ceux qui survivent vont partir en captivité. Et la ville sera entièrement détruite. Vous avez demandé, est-ce que l'Éternel peut faire quelque chose pour nous? Hélas, non. La destruction est arrêtée dans le cœur de Dieu. Et voilà ce qui va se passer. C'est la source de sa souffrance. Être obligé d'annoncer le jugement à un peuple qu'il aime et être traité comme un traître parce qu'il est obligé de dire la vérité. Nous avons une petite part de ça. C'est une partie de la souffrance du chrétien. Vous rencontrez les gens dans la rue, vous leur donnez un traité. Ah, c'est le bon Dieu. Enfin, c'est le Dieu de la Bible, oui. C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ah, mais c'est bien, mais vous faites bien. De toute façon, moi, vous savez, j'ai toujours été croyant. De toute façon, nous irons tous au paradis, pas vrai, hein? On ira tous au paradis. Hélas, non. Comment non? On ne va pas tous au paradis? Vous êtes chrétien, vous? Oui. Vous croyez en Dieu, dans le bon Dieu? Vous dites, oui, bien sûr, je crois en Dieu. Alors, un Dieu d'amour, il ne va quand même pas nous mettre en enfer tout de même. Vous n'y croyez pas à ça quand même. On n'y croit plus depuis longtemps, cette histoire d'enfer. Malheureusement, oui. Oh, vous êtes sectaire, vous. Mais pourquoi? Mais vous êtes horrible. Mais vous croyez, oui, mais vous croyez dans le feu, hein. Vous voulez voir des gens aller dans le feu, hein. C'est comme ça que vous... Mais vous êtes plein de colère, vous. Mais non, pas du tout. Mais si. Parce que si vous avez un peu d'amour, vous diriez que tout le monde va au paradis. Mais vous êtes rempli de haine, vous. Comment leur expliquer? Et non. C'est l'évangile. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quoi? Ton Dieu est un Dieu de colère? Eh bien, écoutez, moi je ne veux rien connaître de votre Dieu, et pas de votre Bible, et de votre secte. Et vous êtes là attristé, sur le point de pleurer, parce que vous dites, tout ce que je veux, c'est qu'ils connaissent le salut en Jésus-Christ, le pardon de leurs péchés. Ils auraient pu venir à Christ et dire, je suis un pécheur, Christ peut me sauver, mais c'est merveilleux. Quelquefois, quelques personnes le font, mais beaucoup de gens vont mal nous considérer parce qu'on est obligé d'annoncer le jugement de Dieu sur le péché. C'est tellement plus facile de dire, mais oui, entre gens sincères, entre gens qui sont bien, vous savez, Dieu, ben oui, mais et ben il va pas. C'est un Dieu d'amour, tout le monde finira au paradis. C'est politiquement correct. Au moins là, vous n'avez pas d'ennemis, personne ne va vous traiter de sectaire. Jérémie, il aurait bien voulu dire, mais oui, mais... D'ailleurs, il y avait des faux prophètes. Il y avait des faux prophètes du temps de Jérémie qui disaient, même quand ils sont partis en captivité, en 606, Daniel est parti en captivité en 606. Les faux prophètes se sont levés pour dire, écoutez, la captivité, ça va durer 2-3 ans, après ils vont tous revenir. N'est-ce pas, Jérémie? Et Jérémie disait, non, ils ne vont pas revenir. Ils sont partis pour 70 ans. Quoi? 70 ans? Mais tu rigoles, mais c'est pas possible. 2-3 ans maximum, c'est bon. Non, ils sont partis pour 70 ans. Et vous allez partir. Quoi? Nous aussi, on va partir? Nebuchadnezzar va revenir? Oui, il va revenir. Deux fois. Et la troisième fois qu'il vient, il va détruire la ville. Mais c'est quoi ce message? Mais comment? Il te paye pour dire ça, Nebuchadnezzar? Ben non. C'est l'Éternel qui m'a dit de vous le dire. On comprend la source de sa souffrance. Alors, il y a eu beaucoup de souffrance dans la vie de Jérémie. Et je peux vous donner tous les passages, mais on ne va pas les lire, évidemment, tous. Jérémie, chapitre 11. C'est les gens de son village, d'Anatote. Un village de sacrificateurs. Donc, ses voisins, c'était des Lévites et des sacrificateurs de l'Éternel. Et quand Jérémie a commencé à prêcher son message, les gens de son village se sont dressés contre lui. Et ils sont allés brûler sa maison. Ils ont détruit tout ce qui lui appartenait dans la ville d'Anatote. Et les gens, ses voisins, parlaient de l'assassiner. Et ils ont essayé de le faire, mais ils n'ont pas réussi. Et Jérémie a dû prononcer une complainte et une malédiction sur ses propres voisins qui l'ont totalement abandonné à cause du message qu'eux n'aimaient pas. Être en opposition aux gens de son village et tous ses voisins. En Jérémie chapitre 20, il est emprisonné pendant une nuit. Mais par la suite, il est emprisonné pendant plus longtemps. Pendant des mois et des mois, il est emprisonné. Parce qu'il prêchait le message que les gens ne voulaient pas entendre. Ensuite, il est obligé de parler des faux prophètes. Regardez en Jérémie chapitre 23, verset 9, où Jérémie dit sur les prophètes, des faux prophètes, hein, il dit « Mon cœur est brisé au-dedans de moi ». Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Il va parler au verset 14. De ces faux prophètes, j'ai vu, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Vous avez le prophète de l'Éternel, Jérémie, qui est maltraité, puis vous avez les faux prophètes qui poussent les gens vers le péché. Qui disent, n'écoute pas Jérémie, le pauvre, il est déprimé, ça va pas, il roule pour les Babyloniens, nous on est les vrais prophètes de l'Éternel, ne vous en faites pas, on est le peuple de Dieu, il ne va rien nous arriver. Et Jérémie dit, mais vous donnez au peuple une fausse confiance. C'est pas comme ça qu'ils vont se repentir. Ils vont se fortifier dans leur idolâtrie. Et le jugement de Dieu va être d'autant plus sévère. Donc il était dégoûté du message de ces faux prophètes. Verset 17, ils disent à ceux qui me méprisent, dit l'Éternel. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ce serait comme si vous parlez à quelqu'un dans la rue ou chez lui de son salut et vous lui expliquez qu'il faut se repentir et que Jésus-Christ est prêt à pardonner. Et la personne dit, écoutez, vraiment ça me touche, je vais vraiment réfléchir sur ce sujet. Quand est-ce qu'on peut se revoir? La semaine prochaine, je viens chez vous. Et vous partez, vous êtes tout content. Peut-être la semaine prochaine, cette personne va se convertir. Peut-être j'aurai la joie de prier avec elle. Vous revenez la semaine suivante, la personne vous ouvre. Ah oui, c'est vous. Oui, alors, comme vous avez dit, je suis revenu. Est-ce que vous avez envie encore de parler de l'Évangile comme la dernière fois? Oh non, ce ne sera pas nécessaire. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais j'ai reçu la visite d'autres personnes dans la semaine. Ils m'ont dit de toute façon, tu iras au paradis, hein. Ne vous laissez pas compter que vous irez en enfer. Hein. Ne vous laissez pas. Non, non, c'est bon pour vous. Moi, je vous garantis, vous irez au paradis. Alors, écoutez, ce n'est pas la peine que vous reveniez. Je sais que j'irai au paradis. Votre truc, là, ça m'a fait peur la semaine dernière, mais maintenant, tout va bien. Donc, hein, vous êtes gentil, mais vous, hein? Est-ce que vous n'auriez pas un sentiment d'irritation et de colère à cause de ces personnes qui ont inspiré chez cette personne une fausse confiance, et la personne s'éloigne du seul sauveur qui pourrait le sauver, et nourrie de cette fausse confiance, va sans doute aller en enfer. Elle est passée à ça du salut, et s'en va vers la perdition, parce que quelqu'un lui a menti, au nom de Dieu. C'est exactement la frustration que Jérémie ressentait quand il entendait ces faux prophètes en disant « Mais non, mais il ne nous arrivera rien, mais ne vous laissez pas prendre la tête par ce pauvre Jérémie, il délire le pauvre. » Vous savez, il est déprimé, hein, on voit bien qu'il pleure tout le temps. Hein. Mais il pleurait parce qu'il était tellement peiné de dire un si terrible message, mais il savait que c'était la vérité. Il y a une opposition systématique à ce que dit Jérémie et ça le rend extrêmement triste. Dans le chapitre 34, Dieu dit, il lui montre un panier de figues, des bonnes figues et des mauvaises figues. Alors comment tu trouves ces figues? Alors Jérémie dit, et Seigneur, dans un panier elles sont excellentes et dans les autres elles sont totalement pourries. Dieu dit, mais voilà, les figues pourries c'est les gens de ton peuple. Sont tellement pourris qu'ils sont irrécupérables, je vais devoir les juger. D'entendre votre peuple traiter de mauvaises figues pourries, ça fait de la peine, pensez pas. Ça fait de la peine, ça fait de la tristesse. C'était vrai, mais c'est quand même triste. Ensuite, on fait une émeute contre Jérémie. Chapitre 26. Et là, il a prêché. Dieu dit, verset 2, tu diras dans le parvis, dans la maison de l'Éternel, et tu diras toutes les paroles que je vais te dire, et tu n'en retranches pas un mot. Verset 3, peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Il y a encore l'espoir. Dieu lui dit, va leur dire, dis-leur encore une fois de se repentir, peut-être qu'ils écouteront cette fois-ci et je ne serai pas obligé de les juger. On voit bien que Dieu ne voulait pas les juger. Alors Jérémie prend son courage à deux mains, il va dans le parvis du temple, il commence à prêcher. Et verset 5, il dit, oui, Dieu dit, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Verset 7. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu mourras !» Pourquoi tu prophétises au nom de l'Éternel en disant, cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants? Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Là, on veut le lyncher, voyez? Comment ça se fait que tu parles comme ça? Comment au nom de qui tu dis que notre ville sera détruite? Comment peux-tu dire une telle chose? Et il y a une émeute là. Les sacrificateurs et les prophètes, les chefs spirituels, sont le plus remontés contre Jérémie. Comme les sacrificateurs et les prophètes d'Israël étaient remontés contre Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas les habitants de Jérusalem qui ont réclamé sa mort. C'est les soi-disant hommes de Dieu qui ont réclamé la mort de Jésus. Ici, c'est la même chose. Heureusement, les chefs politiques du peuple sont descendus, ils ont entendu ça, sont allés voir le roi, ils ont dit, vous savez ce qu'ils font avec Jérémie, là, ça tourne mal. Et ils sont descendus. Et Jérémie, ils sont sur le point de lyncher, et Jérémie dit, écoutez, vous pouvez me tuer si vous voulez, hein. Mais si vous me tuez, vous aurez tué un prophète de l'Éternel. Parce que c'est vraiment l'Éternel qui m'a envoyé. Je vous garantis, je ne le dis pas de gaieté de cœur, je le dis parce que l'Éternel m'oblige à le dire. Il m'a ordonné de vous dire ça. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Maintenant, si vous trouvez que je dois mourir, à vous de voir. Mais moi, je vous garantis que je l'ai dit sincèrement parce que l'Éternel m'a ordonné de vous le dire. Et sur ces entrefaites, verset 16, et c'est un peu rafraîchissant quand même, les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, « Cet homme ne mérite point la mort !» Car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, « Miché de Moréchette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda. » Et il disait à tout le peuple de Juda, « Ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. » Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias, ne craignit-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous chargerions notre âme d'un si grand crime. Et il raconte un autre. Et là, quand vous lisez ça, vous dites, ah! Parce que ça fait quand même 26 chapitres que vous lisez dans Jérémie, et ça a l'air vraiment sombre. Et là, pour la première fois, vous avez quelques-uns qui disent, mais non, au fond, Jérémie, il a dit ce que d'autres prophètes ont dit avant, et d'ailleurs, les autres prophètes, ça a provoqué un retour à l'Éternel, et Dieu n'a pas exécuté sa sentence. Mais il parle comme les autres. Et les autres, on sait qu'ils étaient de l'Éternel. Alors lui, ce Jérémie, doit être de l'Éternel aussi. Et c'est vrai que Dieu a menacé de nous détruire si on ne se repentait pas. Et vous dites, ben, ils vont se repentir alors? Et non. Et non, et c'est bien ça la souffrance. Ils disent oui, ils parlent au nom de Dieu, ce qu'il dit est vrai, mais tout compte fait, non, on va se repentir. Et vous êtes là, mais pourquoi? Ils sont à deux doigts. Et non, ils prennent le mauvais chemin. Le roi Sédécias, le dernier roi, il a consulté deux fois Jérémie en secret. Il a dit, je ne veux pas qu'on sache qu'on se parle tous les deux. Parce que j'ai mes chefs, mes ministres derrière moi, eux ils sont à fond contre Jérémie. Je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai consulté avec toi. Mais dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui va se passer? Si je me rends au roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui va m'arriver? Jérémie dit, si tu te rends gentiment au roi Nebuchadnezzar, il ne t'arrivera rien, tu auras la vie sauve, tu partiras en captivité, tout ira bien, tu n'auras rien ne t'arrivera, toi et ta famille iront bien. Et si je résiste au roi, qu'est-ce qui m'arrivera? Alors là, il va te punir, il va tuer tes enfants, tu vas être aveugle et tu vas partir dans des chaînes d'airain et être en captivité. Ça va être terrible si tu résistes. Sédécias dit, merci pour le tuyau. Alors, ils vont venir, les ministres vont venir te dire, tu as parlé avec le roi, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, tu vas leur dire que tu as demandé de ne plus être en prison, mais d'être dans la cour intérieure de la prison. Oui, oui, d'accord, ok. Effectivement, dès que Jérémie revient dans sa prison, les ministres s'amènent. Alors, tu as parlé avec Sédécias le roi, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, j'ai demandé si je pouvais être dans la cour de la prison. Il a obéi à Sédécias parce que Sédécias craignait pour sa propre vie. Ces gars-là étaient remontés. Et qu'est-ce qu'il a fait, Sédécias? Quand vous lisez, vous dites, oh, il va peut-être, parce que là, on voit qu'il croit Jérémie, il va peut-être suivre les paroles de Jérémie. Est-ce qu'il a fait? Et non. Il a résisté sous la pression de ses ministres et il a eu les yeux crevés. Ses enfants ont été tués devant lui. La dernière chose qu'il a vue, ce pauvre homme, c'est ses enfants tués devant lui. On lui a crevé les yeux, on lui a mis des chaînes d'airain, il est parti en Babylone. Et la souffrance de Jérémie, comme la nôtre, c'est de voir des gens qui sont à deux doigts de prendre la bonne décision et qui tout à coup, dans un acte de folie, partent du mauvais côté et tout est perdu. La frustration et la souffrance de voir des êtres chers s'approcher de la porte de l'évangile et puis non. Il y a aussi la souffrance de voir un enfant de Dieu, un chrétien, qui sait ce que Dieu veut qu'il fasse. Et qui dit, oui, je songe sérieusement faire la volonté de Dieu. Oui, je pense que c'est... je pense que je vais obéir. Et puis tout compte fait, ben non, je fais à ma tête. Et puis, partir dans la malédiction, avoir une vie gâchée, alors que sa vie aurait pu être réussie. C'est une souffrance pour le peuple de Dieu, pour le chrétien. Ils sont partis 70 ans de captivité. Ensuite, chapitre 34, une autre souffrance. Jérémie dit au roi, tu sais, il y a une raison pour laquelle Dieu va nous juger, parce que chez nous en Israël, quand un Israélite était pauvre et endetté, il pouvait se vendre à son parent, à son oncle par exemple, et l'oncle payait ses dettes. Il travaillait chez son oncle comme domestique pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, il rentrait dans sa maison, il était libre et il n'était plus endetté. C'était un moyen pour les pauvres de s'en sortir et pour éviter l'esclavage. Seulement, il ne le pratiquait plus depuis longtemps. Quand quelqu'un se vendait à l'esclavage au bout de 6 ans, il disait, je peux partir? Et le maître disait, non, 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 tu restes ici. Et le garder esclave à vie. Et ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alors Jérémie en a parlé au roi, le roi en a parlé aux autres, et ils ont convoqué tout le peuple, et Jérémie leur dit, bon, maintenant il faut que ça s'arrête, c'est de l'injustice sociale, vous savez très bien ce que Dieu a ordonné, et la raison pour laquelle Dieu va vous juger, parce que vous asservissez vos frères pendant des dizaines d'années, et vous savez très bien que c'est interdit. Le peuple dit, d'accord, on va faire ce que Dieu dit, ok, on va les libérer tous. Alors tout le monde était content, ceux qui étaient esclaves depuis 15, 20 ans, on va être libéré, c'est un retour à l'Éternel. Et Jérémie lui-même est content. Ah, mais peut-être que le jugement va s'éloigner. Il y a peut-être un début de réveil. Dès que le dos de Jérémie était tourné, les propriétaires ont repris les esclaves, les ont remis en esclavage. Après avoir promis et juré au nom de l'Éternel qu'il les libérait. Vous imaginez dans le cœur de Jérémie, non! Ça aurait pu être le réveil, ça aurait pu être l'intervention de Dieu. Et non, ils sont encore rebelles. Jérémie a écrit un livre au chapitre 36, un livre expliquant ce que nous avons maintenant. Ce premier livre a été écrit par son secrétaire Baruch, sous dictée. Et alors Baruch, Dieu a dit à Jérémie, dit à ton secrétaire d'aller lire le livre que je viens de t'inspirer en public. Et il y avait des fonctionnaires du roi qui étaient dans l'auditoire. ils ont entendu ce message, ils ont été saisis, ils ont été touchés, ils ont dit, mais c'est incroyable, ce témoignage, cette prophétie de Jérémie. Mais ça, on voudrait lire ce bouquin, on voudrait lire ce livre, on peut le lire, est-ce que tu peux nous le prêter? Ben oui, d'accord. Il le prête aux hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires se précipitent chez le roi. Écoute, prophète Jérémie vient de sortir un livre. C'est incroyable, mais c'est renversant. Mais il faut absolument que tu l'entendes. Et le roi, oui, oui, d'accord, mais amenez-le. Alors il en fait venir. Avec ses hauts fonctionnaires, et le secrétaire a commencé à lire. Il lit 3-4 pages. Le roi dit, donne-moi ce bouquin. On lui donne, il prend son canif. Et le jette dans le feu, parce qu'il avait fait, une cheminée, il avait un feu là. Ben voilà ce que moi j'en fais de ce livre. Tout ce temps d'écrire. La nouvelle parvient à Jérémie et à Baruch. Ton livre, le livre de Dieu, le roi vient de le brûler. Dieu dit aussitôt à Jérémie, tu recommences. Tu vas réécrire le livre, Baruch, il va recommencer. Et je vais ajouter plein d'autres choses en plus à cette deuxième édition du livre. Et le pauvre Baruch, vous savez, c'était pas à l'ordinateur, c'était écrire à la main, hein, sur un parchemin. C'est des dizaines de pages. Et le secrétaire, on comprend qu'il était découragé. Tout recommençait. Et Dieu dit à Jérémie, dis à ton secrétaire Baruch, écoute, tu me sers, jamais personne ne te mettra à mort. Partout où tu iras, je te donne ta vie. Je te protégerai jusqu'à la fin naturelle de ta vie. Je te protège parce que tu me sers. Alors ça a un peu encouragé Baruch, le fidèle secrétaire. Il a été emprisonné, le pauvre. Et puis on l'a jeté dans un puits avec de la boue au fond. Et alors comme le sable mouvant, le pauvre Jérémie s'enfonçait, vous savez comment c'est, et puis les genoux et aux reins, et puis ça descendait vite, et puis il pensait, ben là je vais étouffer dans la boue de ce puits. Et Dieu a fait un autre allié, improbable, un Éthiopien, un domestique là, qui était dans le palais du roi, Ebed-Melech. Et Ebed-Melech dit quand même, je ne sais pas si le roi est au courant de ce qu'on fait au prophète Jérémie. Il va voir le roi, il dit, écoutez, vous savez, ce prophète n'a rien fait pour mériter ça. Tes chefs là, ils l'ont mis dans un... Il est en train de s'enfoncer dans la boue, et dans quelque temps, il va s'étouffer. Il faudrait le sortir là. C'est pas normal. Cet homme n'a rien mérité qu'on l'assassine de cette manière-là. Et le roi dit, t'as raison. Va prendre des cordes, et puis tu le sors de là. Alors Ebed-Melech est allé prendre des cordes, il a pris plein de petits chiffons qu'il a trouvés par là, puis il jette tout là-dedans à Jérémie, il dit, mets les petits chiffons sous tes aisselles parce que ça va faire mal, je t'envoie le bout de la corde, tu le mets sous tes aisselles, on va te sortir de là. Et vous imaginez la force qu'il faut pour sortir un homme des sables mouvants. Il était avec plusieurs, et cet Éthiopien a sorti Jérémie de ce puits. Et Dieu fait des promesses à Ebed-Melech aussi. Toi aussi, je vais t'honorer, je vais te protéger, parce que tu étais mon serviteur. À la fin, Nebuchadnezzar vient, il détruit toute la ville. Nebuchadnezzar dit à Jérémie, je te connais, je sais quel est ton travail, tu as dû parler contre ton peuple, tu as dû leur dire que j'allais venir. Tu as dû leur dire que j'allais punir votre peuple à cause de sa désobéissance. Et c'est ce qui se passe. Écoute, si tu veux, tu peux revenir avec moi à Babylone. Je m'occupe de tout, pension complète, tu n'auras pas besoin de travailler, je m'occupe de tout, tout frais payés. Si tu préfères, je te verse une pension et tu restes ici dans le pays avec le gouverneur Guédalia. Alors Jérémie hésite, bon, je vois que tu veux rester ici avec Guédalia, tiens, tu vas là-bas, je m'occupe de tout. Alors il va chez Guédalia, le gouverneur, un garçon vraiment sympathique, un peu naïf, mais très sympathique. Et tout se passe bien. Et puis il y a un sombre personnage qui veut tuer Guédalia. Et il dit à plusieurs. Alors les amis de Guédalia viennent lui voir, écoute, il y en a un qui veut te tuer. Mais non, mais qui veut me tuer, moi? Mais non, mais je suis ami avec tout le monde. Et l'assassin arrive avec ses hommes. On voudrait te voir, Guédalia. Bien entendu, entrez. Il les a fait entrer et... Alors le peuple dit à Jérémie, oh là là, on a tué le gouverneur que le roi de Babylone a mis en place. Il va venir nous taper dessus, hein. Ça, c'est sûr qu'il va venir. Il va venir pour tirer vengeance parce qu'on a tué son gouverneur. Jérémie dit non. Si vous tenez tranquille, il vous laissera ici malgré le fait que vous avez tué son gouverneur. Alors le peuple qui reste dit, bon, Jérémie, écoute, voilà ce qu'on va faire. On te demande d'aller consulter l'Éternel. Consulte l'Éternel. Et tu vas nous dire ce que Dieu veut nous dire. Hein? Et ce que toi tu nous dis, on obéira. C'est promis, craché, juré, comme on dit. Ce que toi tu nous dis au nom de l'Éternel, on va le faire. Consulte l'Éternel, s'il te plaît. Alors Jérémie commence à espérer pour une fois qu'on me demande de consulter l'Éternel et qu'on me promet qu'on va observer les commandements. Ouh, à la fin, oh, c'est un plutôt positif. Alors il va consulter l'Éternel et Dieu lui donne un message. Restez là où vous êtes, ne bougez pas, surtout n'allez pas en Égypte. Surtout pas. Alors Jérémie dit, j'ai consulté l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'il a dit l'Éternel? Voilà, alors il explique, restez ici, restez calme, soumettez-vous au roi de Babylone, et surtout, Dieu ne veut pas qu'on ait en Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit le peuple? Oh non, 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 toi tu mens, on ne va pas le faire, toi c'est pas vrai, c'est n'importe quoi que tu nous dis, nous on part en Égypte. Mais vous m'avez dit que vous alliez observer tout ce que je vous ai dit de la part de l'Éternel. Oui, 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 non, 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 nous on part en Égypte. On ne t'écoute pas et tu pars avec nous. S'il y a un endroit où Jérémie ne voulait pas aller, c'était en Égypte. Il savait que ce n'était pas le plan de Dieu. Et le voilà, le pauvre homme, en certain âge maintenant, obligé, ils l'ont traîné en Égypte. Il a fini sa vie en Égypte. Et même en Égypte, il leur a dit... Le roi de Babylone va venir ici et vous massacrer même en Égypte. Vous avez fait... Mais jusqu'à la fin de sa vie, il était obligé d'être avec ces gens-là qui se dressaient systématiquement contre son message. Et ça n'a jamais été autre chose toute sa vie. Bon, il est mort de vieillesse. Dieu lui a dit, personne ne te mettra à mort, je te protégerai jusqu'à la fin. Mais les larmes... de la frustration de dire la vérité qui n'est jamais acceptée, et de souffrir. Il y a des bénédictions dans la vie de Jérémie, au chapitre 31, la Nouvelle Alliance. Si vous lisez Jérémie 31, vous allez voir la Nouvelle Alliance dans l'Ancien Testament. C'est un passage merveilleux où Dieu dit à la fin, « Tous me connaîtront, je vais les laver de leurs péchés. » Par l'alliance de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Et c'est Jérémie qui était le premier dans l'Ancien Testament à annoncer officiellement la nouvelle alliance que nous avons en Christ. Il a annoncé l'évangile 700 ans avant la naissance de Jésus. Quel privilège! Une autre, juste après ça, chapitre 32, le cousin vient, il est en prison. Le roi de Babylone est à la porte, ils sont en train d'assiéger la ville. Le roi de Babylone va détruire la ville, Jérémie le dit. Et le cousin, je ne sais pas, avec peut-être un sourire en coin, il dit, « Et Jérémie, à Anatote, il y a un champ, tu sais, et on veut te le vendre. » Alors que le pays est envahi. Hein? Et Jérémie, il dit, « On va partir pour une captivité de 70 ans. À quoi ça sert d'acheter un champ dont vous ne profiterez jamais ?» Alors Jérémie a envie de dire à son cousin, c'est pas le moment peut-être d'acheter un champ à Anatote, tu as vu la situation. Dieu lui dit, achète le champ. Alors peut-être le cousin s'est frotté les mains. Jérémie, il achète le champ, il n'en profitera jamais, en attendant, moi j'ai des sous. Mais Dieu dit à Jérémie, tu vois, tu achètes le champ. Ça c'est la garantie que dans 70 ans, mon peuple reviendra dans son pays, je le bénirai, et ce champ aura de la valeur, alors tu l'achètes. Jérémie n'en profitera pas, mais il le fait pour la gloire de Dieu, pour montrer, après le jugement, le Seigneur vous ramènera, et vous bénira, et vous restaurera votre pays. Alors pour Jérémie, malgré un peu le côté cocasse de la transaction, c'était un encouragement pour lui. Et il y a plein d'autres choses. Je pense aux Rechabites. Les Rechabites, c'était même pas des Juifs, c'était un peuple, une petite tribu. Et il les fait venir au temple. Et il... Oh, c'est bizarre, le prophète, il dit, voilà, il a préparé du vin, des coupes de vin, il dit, voilà, je vous invite à l'apéritif, buvez, buvez. Et ils disent, non, nous ne buvons pas d'alcool. On ne boit jamais de vin. Tout le monde boit du vin, nous on n'en boit pas. Et pourquoi vous n'en buvez pas, vous? Mais aucun de vous, il n'y en a aucun qui... Non, on ne boit pas. Et comment ça se fait? Notre ancêtre, Rechab, nous a dit de ne jamais boire de vin et de ne jamais acheter de maison. Nous sommes des itinérants, nous sommes des voyageurs et nous sommes des abstinents parce que le chef de notre tribu l'a dit et nous obéissons à tout ce qu'il nous a dit jusqu'à ce jour. Alors Jérémie, pour l'occasion de l'apéritif, il avait invité les responsables politiques à venir dans la salle pour qu'ils entendent ça. Alors il se tourne vers les responsables du royaume, il dit, est-ce que vous avez entendu les Rechabites? Tout ce que leur ancêtre leur a donné comme ordre, ils obéissent scrupuleusement. Moi, je dis bravo. Et vous, vous désobéissez systématiquement à tout ce que dit votre Dieu. Ils sont plus fidèles à leur ancêtre que vous ne l'êtes à votre Dieu. Il dit aux Rechabites, bravo. Merci pour la leçon. Merci de prendre position. Merci d'être obéissant à votre ancêtre. C'est une leçon pour nous. Alors, il y a eu des moments dans la vie de Jérémie où il a vraiment éprouvé une certaine joie, vous voyez. Certains moments. Des moments de tristesse, mais aussi des moments de joie. Des moments où il a vu des gens rendre un témoignage, qu'il a pu dire à son peuple, regardez ces gens-là, vous devriez faire comme eux. Globalement, le peuple n'a pas suivi du tout le message de Jérémie. D'où les larmes, d'où la tristesse. Mais à la fin de sa vie, il a pu annoncer des choses merveilleuses. Dieu qui dit, quand je vous enverrai en Babylone, bâtissez des maisons, vivez, priez pour Babylone, vous allez y être heureux. Et en 70 ans, je vous ramènerai chez vous. Je vous punis à cause de toute votre idolâtrie. Je vous punis à cause de toute votre rébellion. Mais je vous aime. Et après vous avoir châtié, je vous ramènerai dans votre pays et je vous restaurerai. Et Jérémie a pu prêcher ce message aussi. Après le jugement, la bénédiction et la restauration. Et vous et moi, c'est la même chose. Nous pouvons dire à nos frères et à nos sœurs. Parfois, on trouve quelqu'un qui est... Tu marches avec Dieu en ce moment? Non, je ne marche pas avec Dieu. Avec Dieu et moi, on est un peu fâchés en ce moment. Je ne marche pas avec Dieu. Attention. Si tu ne marches pas avec Dieu, Dieu peut te châtier. Je ne le souhaite pas. Mais il faut savoir que Dieu peut te châtier. Mais si tu te repens, Dieu te restaurera. Après le châtiment, il y a la restauration. C'est dommage de passer par la case de châtiment. Mais s'il faut y passer, Dieu n'en reste pas là. Il restaure, il pardonne. Il réhabilite. Et donc, nous avons, nous aussi, enfants de Dieu, un ministère de tristesse, annoncer l'évangile à des gens qui n'en ont rien à faire. Annoncer l'évangile à des gens qui semblent vouloir l'accepter et qui tout à coup se rétractent. Quelle frustration et quelle tristesse. Annoncer la parole de Dieu à des enfants de Dieu qui semblent vouloir obéir et puis désobéissent. Annoncer la vérité à des gens qui font un pas, puis deux pas, puis trois pas et puis qui se figent, qui n'en font plus et qui restent plantés comme ça. Sans avancer, pendant des années. Quelle tristesse. Mais dans la mesure où nous avons annoncé la parole de Dieu, notre travail n'a pas été en vain. Et Jérémie, c'est un de nos héros bibliques. Un homme qui a toujours annoncé la vérité avec des larmes. Il y a deux manières d'annoncer la vérité. Avec dureté, ça va glacer les cœurs. Ou avec larmes, pour fondre les cœurs. Dieu veut qu'on puisse pleurer. Qu'on aime les gens au point de pleurer sur eux. Mais leur dire la vérité, comme lui-même le fait. Seigneur Jésus, merci pour ces instants et nous te prions que le témoignage et l'exemple de Jérémie à travers sa tristesse et ses larmes puissent toucher nos cœurs. Seigneur, aide-nous à être sensibles. Quand tu nous donnes un ordre, quand tu nous donnes un commandement, aide-nous à ne pas être systématiquement contre. Aide-nous à ne pas dire « Non, ça c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. » Aide-nous à ne pas être comme ce peuple d'Israël tellement réfractaire. Aide-nous à ne pas faire comme eux, de dire « Eh bien, dis-moi ce que Dieu veut que je fasse et je le ferai. » Et puis, une fois qu'on le sait, on refuse. Que nous soyons des auditeurs attentifs, disposés à obéir, disposés à nous repentir, disposés à faire le prochain pas. Aide-nous à ne pas être un sujet de tristesse pour les gens qui sont responsables de nous, mais être un sujet de joie parce que nous aurons progressé. Sous ton regard. Oui, Seigneur, que tu nous aides si nous sommes dans la dépression à cause de notre désobéissance et notre rébellion et notre indifférence, eh bien, fais un travail dans nos cœurs pour qu'on puisse renouer avec toi et connaître de nouveau cette obéissance, cette bénédiction et cette restauration. En Christ. Amen.